Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonsoir à tous. Si vous voulez avec moi, on va lire un texte dans notre Bible, dans l'évangile de Jean chapitre 15. C'est dans cette fameuse parabole du cep et des sarments. Alors, Jean chapitre 15, verset 1er. Je suis le cep, et mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette parole. Il y a un verset sur lequel j'aimerais m'arrêter ce soir. Quand c'est même pas un verset, c'est une partie, c'est une fraction de verset. Vous l'avez remarqué, Jésus dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous allons nous intéresser précisément à ces paroles où Jésus nous exprime et parlait devant ses disciples, et ses paroles se sont immortalisées puisqu'elles sont arrivées jusqu'à nous, quand il dit, eh bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une préposition qui marque le manque et l'absence. Vous le savez aussi bien que moi, il y a bien longtemps que la terre tourne. C'est pas d'aujourd'hui. Et que les hommes font et entreprennent indépendamment de l'avertissement que le Seigneur nous laisse ce soir. Et on a fait une multitude de choses. Et dans le monde, depuis toujours, ce n'est pas un fait de notre société d'aujourd'hui, il semblerait qu'on ait débarqué Jésus quelque part, et on lui a dit « maintenant on n'a plus besoin de toi ». On peut se passer finalement eh bien, de toi. On peut faire les choses sans toi. De fait, quel démenti, parce que entre ce que nous lisons dans la Bible, sans moi vous ne pouvez rien faire, et ce que sont capables de faire les hommes, apparemment sans Dieu, eh bien, on se dit que l'homme a des capacités quelque part. Ça, on ne revient pas là-dessus. Parce que on voit que l'homme a bâti, il a édifié, il a fabriqué, il a façonné, il a éduqué, il a découvert. En somme, tout ce dont le monde est capable. Et on est encore étonné, et je dirais même époustouflé, de ce que les gens sont capables, que le monde est capable de faire encore aujourd'hui, devant ces réalisations, les petites comme les grandes. Et je vous dirais qu'en apparence, ça fonctionne. C'est vrai. Qui aurait pu imaginer, il y a encore peut-être 100 ans, 150 ans, à moins que nous soyons des lecteurs de Jules Verne, eh bien qu'on serait descendu dans les abysses et qu'on aurait découvert le fond des mers, et puis avec toutes ces richesses, que de la Terre à la Lune, si vous connaissez la littérature, eh bien qu'on enverrait des engins dans l'espace et qu'on exploiterait des galaxies, enfin peut-être pas encore, mais toujours est-il qu'on a été très 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 loin. Et c'est vrai que ça fonctionne quand même, ça marche. Et à regarder le train d'activité humaine, la technologie, les réalisations formidables, eh bien on pourrait croire que Jésus s'est trompé en pensant qu'il était indispensable à la marche du monde. Ce que vous avez remarqué, on l'a lu tout à l'heure, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est un paradoxe. Ça fait partie des paradoxes, finalement, des hommes et du monde. C'est vrai que l'incrédule peut se moquer, celui qui a jeté quelques regards dans la Bible en disant « Mais vous vous rendez compte ? Ce que Jésus nous dit, qu'on ne peut pas se passer de lui, et puis finalement, eh bien, ça marche quand même, ça c'est certain. » Alors, l'incrédule peut se moquer des paroles de Jésus et être fier d'être si indépendant. Et les hommes ne s'en privent pas d'ailleurs. Il peut se dire volontiers libre et n'avoir besoin de personne. C'est le fond finalement et ce que les gens pensent. N'avoir besoin de personne dans les affaires, n'avoir besoin de personne dans sa vie, et encore moins, et ça devient quelque part pour certains risible, encore moins, certainement pas avoir besoin de Dieu dans son existence. Et si nous posons la question, avez-vous besoin de l'aide de Dieu? Voulez-vous de Dieu? Avez-vous besoin de, eh bien, que quelque chose, eh bien, là, vienne du ciel? Alors les gens disent, écrit, ou s'écrit, eh bien, jamais, certainement pas, et on va peut-être ajouter, mais pourquoi on aurait besoin de Dieu? Puisque finalement, on s'est toujours débrouillé tout seul. On s'est toujours débrouillé sans lui. Nous voyons que Jésus ira encore beaucoup plus loin lorsqu'il déclare, et c'est pour cela que nous avons lu un petit peu avant, même si j'ai isolé un peu ce verset 5, Jésus dit, parce que ça fait partie de notre réflexion, « Je suis le cep et vous, les hommes, » qu'est-ce qu'il dit ?« Je suis le cep et vous, les hommes, vous êtes les sarments. » Alors, vous connaissez peut-être un petit peu la viticulture, comment ça marche, hein ? Ça fait partie de la même plante, hein, tout cela. C'est-à-dire, Jésus veut nous dire tout simplement que lui, il est la racine, il est la source vitale, et que nous, nous sommes les branches, enfin les sarments si vous voulez, hein, nous sommes les branches, donc lui, il est la source vitale et nous sommes tributaires, eh bien, de cette sève divine, parce que sans cela, on sait que sur un arbre, hein, eh bien, une branche ne peut subsister, un rameau ne peut subsister s'il ne reste attaché finalement, eh bien, au pied, tout simplement à la racine. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers tout ça? Il veut nous dire, en d'autres termes, que la vie vient du cep, et elle se répand dans les branches, dans les sarments, car un sarment sans cep est un vulgaire rameau sans vie. Alors allez dire ça autour de vous. Allez dire, et c'est quand même assez provocateur, de lui dire, écoutez, vous êtes mort. Et pourtant, la Bible affirme que les gens sont morts. C'est ce que nous dit le livre des Éphésiens, quand il dit, mais finalement, vous étiez morts dans vos péchés, en raison de vos rébellions, en raison de tout cela. Mais Jésus prend le risque, et il a l'audace de nous montrer encore d'une manière, avec en s'inspirant de la nature, qu'un rameau sans sève est donc sans vie. Et là où la vie est absente, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a que la mort. C'est la mort qui est là, qui est présente. Et là où il y a aucune vie, là où il y a la mort, il ne peut pas y avoir de fruit. Et le fruit, c'est quand même l'image d'un cycle qui aboutit pour la reproduction. Parce que le fruit est porteur aussi d'une vie à l'intérieur. Donc il n'y a rien du tout. Et je crois que c'est un petit peu l'image de notre monde sans Dieu, sans espérance, qui n'est pas rattaché au cep, et qui fait que finalement, mis à part cette existence, on pourrait peut-être donner ce nom, cette existence de quelques dizaines d'années, après il n'y a plus rien du tout finalement, pour ceux qui sont, eh bien, sans Dieu. Alors c'est ce que Jésus veut nous dire. Et c'est certainement sur ce point que, où l'incroyant, imbu de lui-même, oublie l'élément essentiel de la vie sur terre, c'est-à-dire sa finalité. Nous sommes là pourquoi? Nous vivons pourquoi? Pourquoi, eh bien, finalement, nous avons été lancés dans cette carrière de la vie, et si c'est pour naître et puis tout simplement mourir, ça c'est inéluctable. Mais s'il n'y a rien d'autre, si l'on dit, comme dans le livre des Proverbes, il n'y a point de Dieu, l'insensé dit il n'y a point de Dieu, alors il n'y a rien d'autre alors à ce moment-là. C'est de la désespérance. C'est... Il n'y a aucune perspective, il n'y a rien du tout. Alors, l'homme essaie de s'évertuer à trouver toutes sortes de choses. Alors, il essaie de trouver des expédients pour dire « nous sommes vivants ». Nous vivons, alors il fait des exploits. Il fait des réalisations dont il veut bien que... Et surtout qu'il veut que ça laisse une empreinte après lui. Parce que l'homme, s'il n'a que cette dimension, n'a qu'une dimension matérialiste. Il n'y a rien d'autre. Alors le fruit, qu'est-ce que c'est? On va en dire quelques mots. Le fruit, c'est ce que l'homme est capable de produire, non par son ingéniosité, non par son intelligence, et il est intelligent, non par son habileté, mais en valeur morale et spirituelle. C'est ça le fruit. Dans ce qu'il répond à cette dimension, à cet appel de Dieu, parce qu'il est un être de dimension morale et spirituelle, que nous pourrions peut-être tout simplement dire le cœur, l'âme, la conscience et l'esprit. Et pour nous rappeler ce que Jésus nous dit, c'est que l'homme sans Christ est un homme sans rien. Sans rien qui plaise à Dieu, puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucun fruit. Sur un arbre, il y a deux possibilités, nous explique Jésus dans le Sermon sur la montagne. Il y a le bon et le mauvais fruit, lequel dépend de l'arbre porteur. Si l'arbre est malade, eh bien il va porter des fruits, passez-moi l'expression, mais véreux. Des fruits qui seront non consommables, des fruits qui seront laids. Et par contre, si véritablement, eh bien là, les soins ont été donnés, les conditions sont réunies, vous allez avoir un fruit savoureux, un fruit qui apportera véritablement, eh bien, ce pourquoi il est fait et ce qu'il va donner. Alors, sans bon fruit, quelle valeur peut avoir un arbre? C'est certain. On se pose la question. Pour nous montrer encore une fois de plus que sans attachement personnel et réel à la personne de Jésus, à ses paroles, et qui suppose l'obéissance à son exemple parfait, est-ce qu'un homme peut porter le titre de chrétien? C'est mon interrogation ce soir. Parce qu'un chrétien, c'est pas d'en porter le nom, c'est pas d'être et de déclarer ou de faire la profession que nous sommes chrétiens, tout le monde peut le dire. Parce que ça, c'est pas trop difficile. Mais aux yeux de Dieu, être un chrétien, c'est véritablement, eh bien, donner les preuves que nous sommes, avec des fruits à l'intérieur de nous-mêmes. Alors on va voir ça d'ici quelques instants. Et Jésus appuie cette thèse, il dit, mais celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Vous avez compris cette osmose qu'il y a entre le cep et le sarment, entre la racine de l'arbre, et puis finalement les branches, et puis avec tout ce qui peut en découler. Donc il y a une osmose, il y a une communion, il y a une relation extrêmement étroite. À partir du moment où nous vivons en Jésus, que nous nous nourrissons de sa parole, que nous mettons notre confiance en nous, alors en lui, pardon, eh bien à ce moment-là, nous allons justement porter les fruits qui sont les siens. Sa vie va être transposée, déversée dans la nôtre. C'est logique. Ce que nous entendons par fruit n'est pas forcément naturel, mais il est le résultat finalement de la vie de Christ en nous quand nous le laissons agir, que nous lui donnons la place. Nous pouvons résister finalement à l'action de Dieu dans notre vie et à l'action de sa parole, à l'action du Saint-Esprit. Alors il ne s'agit pas tout simplement de produits naturels parce qu'il y a des gens qui sont naturellement bons. Comme il y en a d'autres qui sont naturellement mauvais. Il y a des gens qui parlent un langage de vérité, d'autres, ce sera le contraire. Donc c'est pas une question de nature. D'ailleurs, si nous comptons que sur la nature, la Bible est très claire, elle nous dit tout simplement que nous sommes pécheurs et nous sommes perdus. Et ce texte que nous avons lu nous offre à chacun une alternative. Et nous interpelle pour savoir si nos racines sont plongées sur le vrai cep qui est Jésus, avec ses conséquences logiques et évidentes, c'est-à-dire une vie transformée. Et si nous prenons une traduction de la Bible moderne, j'ai trouvé cela, et les fruits que produit un homme qui est attaché à Christ, un homme ou une femme, écoutez ce que nous dit cette traduction de Paul dans Galates chapitre 5, il dit ceci, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour ». C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Alors, c'est une traduction, hein, c'est une amplification. Et il parle du bon caractère. C'est l'amabilité, c'est la serviabilité, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est la fidélité, c'est la confiance dans les autres, c'est la douceur, c'est la modestie, c'est l'aptitude à céder, peut-être devant certaines choses, où nous voulons avoir raison, où nous voulons faire valoir nos droits, qui nous ramène au sermon sur la montagne, où Jésus nous dit, mais si ton ennemi te demande de faire 1 000, t'en fais 2 avec lui. Alors ça paraît de la faiblesse, mais c'est de la force finalement tout cela. C'est une force inimaginable, et ça c'est le fruit de Christ à l'intérieur de nous-mêmes, c'est la patience et la maîtrise de soi. Ou soit, véritablement, c'est une vie transformée, ou soit, ces qualités sont ailleurs, sur un autre cèpe planté sur un autre terrain, ou alors la production est à l'opposé qui trahit la vraie nature, un état d'être, une mentalité, et nous pourrions dire une mauvaise mentalité. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs encore cet épître aux Galates, quand il nous dit que les fruits de la nature humaine, c'est le mensonge, c'est la méchanceté, c'est ceci, c'est cela, etc. Vous le trouvez également dans Galates. Donc c'est le contraire de ce que nous avons dit. Alors tout dépend de ce quoi nous sommes greffés, là où nous nous reposons, là où nous trouvons nos sources et nos ressources. Je voudrais faire une remarque au passage, c'est que l'homme a produit dans ce qu'il y a de meilleur dans ce monde est parfois devenu un sous-produit. C'est-à-dire que l'homme a toujours un idéal devant lui et ce qu'il pense être bien n'est pas forcément dans son résultat bon et bien. Et parfois un sous-produit détestable. Et parfois on a parlé de la science sans conscience. La pensée, la technique et les hommes sont capables de beaucoup de choses. Parce que tout cela a été entaché par l'orgueil, par l'égoïsme, a été pourri par la corruption du cœur rebelle qui est cœur rebelle à Dieu. Et c'est vrai que s'il y a cette absence de Dieu, et vous vous souvenez, je reviens toujours sur cette parole, sans moi vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est pas de juger en quantité, mais c'est de juger en qualité. Où là nous sommes interpellés. Et la Bible est là pour nous rappeler encore une fois de plus que à partir du moment où le cœur est laissé livré à lui-même et en dehors du plan de Dieu, eh bien il est capable de produire toutes sortes de choses. Et même s'il produit des bonnes choses, ça ne sera jamais pour la gloire de Dieu, ça sera pour sa propre gloire, son égoïsme, sa vanité et tout ce que vous voudrez. Ça c'est constaté naturellement. Et c'est vrai que l'homme est capable de faire des choses sans Dieu, mais combien il nous apparaît vrai et pertinent cette parole que je cite encore, parce qu'elle va aller encore nous conduire plus loin, quand Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », et moi j'ajoute « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire de bien, de bon, de juste et de vrai ». Alors on va vérifier ça maintenant, si vous voulez, simplement, on va le vérifier. « Sans moi », nous dit Jésus. Chacun sait que nous vivons dans une société de consommation super organisée. On a des commodités que probablement nos grands-parents ou nos aïeux seraient certainement étonnés de voir la manière dont nous vivons aujourd'hui, où le génie humain, si nous voulons le dire de cette manière, a inventé l'addition et la multiplication. On l'a dans notre réflexion, dans notre réflexe de consommateur, d'une façon ou d'une autre, c'est devenu une nécessité vitale pour satisfaire notre gloutonnerie de consommateur. Eh oui! Vous n'achetez pas un paquet sans qu'il y ait quelque chose à côté. C'est vrai. Ou qu'il y ait une amorce pour vous dire, eh bien voilà, vous avez ceci, cela en prime, etc., etc. Aujourd'hui, on pousse les choses quand même assez loin. Vous allez acheter un costume et on vous en offre un deuxième. Vous savez très bien qu'on peut en porter qu'un à la fois. N'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Et c'est ainsi qu'on a dirigé un petit peu la mentalité des gens. C'est toujours du plus et avec ceci. Avec cela, etc., etc. Il faut toujours davantage dans notre monde. Hein. Et les gens en réclament toujours davantage. Et quelquefois, c'est assez surprenant, les mouvements sociaux. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas le droit de citer et qu'il y a de véritables revendications. Mais je crois que nous sommes arrivés dans une surenchère. C'est-à-dire que nous allons toujours, toujours, toujours de plus en plus. Et on pourra toujours en donner, il n'y en aura jamais assez. C'est la mentalité de notre temps et de notre monde. Et paradoxalement, à étudier le vocabulaire actuel, parce que nous l'utilisons tous les jours, nous parvenons, et ça c'est un tour de force mentale, parce que ça se passe dans notre tête, à vivre sans presque rien. Je m'explique. À vivre sans presque rien. Je parle du vocabulaire. Écoutons. Nous buvons des sirops sans colorant, c'est marqué dessus. Nous utilisons des lessives sans phosphate, c'est aussi marqué dessus. Nous mangeons du beurre sans matière grasse, c'est aussi affirmé. Nous avons et nous mettons dans nos voitures de l'essence sans plomb, c'est meilleur pour la santé, tout est sans. Pour les enfants, des bonbons sans additifs, et même, c'est une invention qui envahit notre vie, nous communiquons avec des téléphones sans fil. Et je pourrais multiplier à l'infini ce genre de choses. Parce que nous sommes habitués à fonctionner comme ça, avec des sans, des sans, des sans. Vous savez ce que Jésus a dit ? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors on parle de crédit sans intérêt, mais méfiez-vous quand même. Du TGV sans supplément, vous allez y avoir droit. Alors il faut bien avouer qu'avec rien, on fait des miracles. C'est vrai. Et le monde fonctionne de cette manière. Pour vous, mesdames, peut-être avec les obsessions de la minceur, eh bien, on culpabilise les gens aussi. Hein, parce que notre société a engendré une génération de bio-allégés. C'est ça. Hein, on peut dire comme ça. Ce sont des mots que j'utilise dans le langage courant. Et où on veut tenir une ligne extérieure, mais il est à redouter qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur, tellement on veut faire avec des sans ceci, sans cela. Ça ne sera pas sans souci, de toute façon. Ouais. Parce que ça, c'est tout un profil de vie, c'est toute une conception, un schéma d'existence. Mais on s'aperçoit qu'avec tout cela, eh bien, les gens ne sont pas plus heureux. Vous vous souvenez, Jésus a dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors on fait des plus, on fait des moins, on vous dit qu'avec ceci ou sans cela, eh bien c'est comme cela. Ça c'est pour l'aspect matériel. C'est pour l'aspect matériel. Maintenant sur le plan moral, on va plus loin encore, me semble-t-il. On veut réussir sans effort. On veut réussir sans persévérance, parce que c'est le tout de suite. On veut de l'argent sans travailler, c'est encore une autre affaire. On fait des couples sans amour. On veut le bonheur sans partage, parce que l'égoïsme est roi dans notre monde. On veut des relations humaines sans parler, c'est difficile. Et bien d'autres choses peuvent être multipliées. Et nous nous apercevons, et c'est là où nous nous positionnons par rapport à la parole de Jésus, c'est que sur le plan spirituel, j'ai parlé sur le plan matériel, sur le plan moral, mais sur le plan spirituel, je crois que l'on atteint véritablement le summum. Parce qu'on nous rabâche sans cesse. Partez sans payer. Oui, partez sans payer. Ce à quoi certains ont tellement bien pris l'habitude que de toute façon ils se disent maintenant c'est très bien et ils le font finalement sans gêne. Au niveau spirituel, plus précisément, dans la vie religieuse, finalement on peut s'imaginer que l'on peut vivre sa vie religieuse sans Dieu. Et la vie religieuse a été faite justement pour mettre un peu de côté et de vivre un petit peu selon nos propres pensées. Et on parle aisément d'espérance de réincarnation sans la résurrection. Pourtant, c'est biblique. On parle de crucifixion sans douleur. Et pourtant, la crucifixion, il y a toujours de la douleur et de la souffrance. On entend prêcher parfois dans les églises le bien sans le mal. On nous parle d'un Dieu, on nous parle de Dieu sans le diable. On nous parle du ciel sans l'enfer, de salut sans la foi, le pardon sans repentance, c'est quelque chose de très moderne. Et on veut de la vie sans passer par la mort. C'est impossible. Alors on multiplie les sangs partout, c'est du 100% si vous aimez mieux. Et nous nous apercevons que le monde est en train de glisser à son insu vers le mensonge et l'illusion. On veut nous faire croire, et c'est peut-être la grande supercherie de notre société, de notre temps, on veut nous faire croire qu'on a plus avec moins, qu'on a moins avec Jésus et qu'on a plus sans lui. C'est pour ça qu'il a donné ces paroles. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'on nous promet la liberté, on nous promet les choix, on nous promet aucune contrainte. Et ça, ce n'est pas possible. Et le monde s'y accommode bien parce que c'est mental. Et on fonctionne de cette manière. Et je crois qu'il nous faut revenir à l'évangile où Jésus nous dit, mais n'oubliez pas, avec tout cela, que sans moi, vous ne pouvez pas vivre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La raison est simple. Et je crois que nous l'entendons de la bouche même de Jésus quand il nous rappelle cette parole que vous connaissez, qui est consignée dans l'évangile. Et quand il regardera le peuple d'Israël, ses contemporains, il dira ceci, « Ils sont comme des brebis sans berger. » Ah oui, le drame, il est là. « Ils sont comme des brebis sans berger. » Les hommes, des créatures sans le Créateur. Des hommes qui s'illusionnent sur le ciel sans être sauvés, ou sans croire qu'ils peuvent être sauvés ou qu'ils ne veulent pas croire. Et quand le vrai berger appelle, c'est-à-dire celui de l'Évangile, eh bien personne ne répond. Et sommes-nous étonnés dans notre monde qu'il y ait tant de malheureux, qu'il y ait tant d'angoissés et de déprimés? Et on se dit, mais de quoi est fait notre monde? Pourquoi les gens vivent-ils ainsi? Pourquoi sont-ils plongés dans la misère, dans la désespérance? Pourquoi? Parce qu'ils sont sans berger. Et on a tous besoin. On a tous besoin de Dieu, c'est pas possible autrement. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. C'est cette fâcheuse attitude qu'il faut combattre, de vouloir faire sans la vérité de Jésus, de vouloir faire sans la lumière de la parole de Dieu, de faire sans Christ comme notre Sauveur et le Seigneur de notre vie. Si pour une fois et pour la vie, on faisait, et ça c'est le scoop, si on faisait sans le péché, vous ne croyez pas que ça changerait beaucoup de choses? Imaginez-vous un monde, un instant, sans le péché. On pourrait dire, le monde, il est beau, il est gentil. Hein, ouais. Mais c'est viscéral, c'est quelque chose qui est tellement, nous sommes tellement plongés, tellement imprégnés. La vie sans le péché, la vie sans nos haines, sans notre incrédulité. Mais ce serait un monde formidable. Et c'est pourtant ce que Jésus a voulu dire aux hommes. Imaginez-vous, voulez-vous, je vous propose, je vous invite, venez à moi. Parce que je sais que vous êtes chargés, vous êtes fatigués avec vos régimes de sans ceci, sans cela, avec plus ou avec moins de ce. Et nous voyons que l'homme est complètement omnibilé par ça. Alors, à vouloir faire tout sans Dieu, que va-t-il rester au jour de l'examen suprême? Il ne restera pas grand-chose. Hein. Des vies sans rien. Des vies qui auront été nulles, en quelque sorte, avec rien dedans. Reflétant l'indigence, la misère, la nudité. Alors, je termine tout simplement. Quelle force de vérité nous avons dans ces paroles que Jésus nous laisse quand il nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Composer notre vie sans Jésus revient à manquer le but et la destination de l'existence, parce que le principal, c'est ce que Jésus nous enseigne et ce que je vous invite à lire. Simplement en conclusion, dans l'évangile de Luc, un petit texte très simple au chapitre 6 que vous avez certainement, que vous connaissez, vous pourriez même le restituer de mémoire. Quant au verset 46, et on va le lire jusque simplement quelques versets, Jésus met le doigt sur la plaie. Il stigmatise la réalité finalement du vide de l'homme, de l'humanité. Il dira, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre elle sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, la ruine de cette maison a été grande. Alors on comprend que sans Jésus, sans sa parole, sans la foi, sans l'obéissance, sans nous donner à lui, eh bien notre maison elle ne peut pas subsister, c'est pas possible, parce que des torrents, la pluie, le vent, les tempêtes, les ouragans, les tsunamis, ils viendront tôt ou tard dans notre vie, à un moment ou à un autre. Et je crois que nous avons vraiment besoin de Jésus, nous avons besoin de rester attachés à lui, d'être greffés sur lui, d'être rivés à lui. Jésus met en opposition le roc et le sable. Le sable, eh bien, s'éparpille sous nos pieds. Il n'y a rien de fiable. En plus, si c'est un sable mouvant, c'est même très dangereux. Mais si vous mettez le pied sur un rocher, vous ne craignez rien. Et la proposition qui nous est faite, encore en entendant l'évangile, c'est avec ou sans Jésus, c'est tout. C'est ça, l'évangile, c'est pas autre chose. C'est pas des litanies, c'est pas des récitations, c'est pas là une philosophie religieuse, hein, quelle qu'elle soit. Non, l'évangile, c'est avec ou sans Jésus. Et l'invitation, la proposition nous est donnée, c'est à nous tout simplement de l'accepter. Le roc ou le sable, avec ou sans lui. Une humanité ou notre vie peut-être, en raison de nos négligences, de nos désintérêts, de notre indifférence, si nous l'avons construit, eh bien, sans fondement solide, sans certitude présente et éternelle, Jésus affirme qu'elle sera balayée à un moment ou à un autre. Je crois qu'il n'y a rien de plus désespérant de savoir que finalement nous sommes passés à côté de la réalité. Je dis que c'est extraordinaire et c'est merveilleux de voir des hommes et des femmes, nous-mêmes impliqués, et d'avoir un sens et un but à notre vie, et de dire « je ne peux pas vivre sans Jésus ». C'est extraordinaire. Moi, j'admire parce que je sais que c'est quelque chose de beau, c'est un miracle. Et j'ai toujours pensé que le plus grand des miracles, c'est pas un boiteux qui marche, c'est pas un aveugle qui voit, c'est pas des choses comme ça. Ce sont des choses extraordinaires, c'est vrai, qui nous descendent comme des dons de Dieu dans les vies piétinées et les vies abîmées des hommes. Mais je crois que le plus grand miracle, c'est quand un homme, en découvrant Jésus, ne peut plus se passer de Dieu dans sa vie. Ouais. Et on peut le vérifier soi-même quand, quelquefois, il y a un relâchement ou quand il y a des obligations qui nous entraînent à d'autres choses et que l'on n'a pas lu la parole, qu'on n'a pas prié, qu'on n'a pas cette communion que notre pensée, notre cœur, notre amour, eh bien là, n'a pas été dirigé à un moment ou à un autre, un temps soit peu, vers le Seigneur, il nous manque quelque chose. Et je dis que ce feu-là, que cette vie-là, que cet amour-là, eh bien, c'est certainement la plus belle des choses. Ouais. Et de le garder jusqu'au bout. Alors Jésus nous dit, vous avez bien compris ce soir, hein, parce que c'est simple, hein, ce que je dis c'est simple, hein, c'est que sans moi, nous dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Alors, moi je voudrais peut-être faire une prière pour moi-même et puis la faire avec vous, si vous voulez. Eh bien de dire, mais Seigneur, vraiment j'ai compris que sans toi je ne peux rien faire, et j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu me remplisses, j'ai besoin que tu m'inondes, j'ai besoin que tu m'immerges, j'ai besoin que tu me remplisses, mais à déborder, Seigneur, parce que la vie sans toi, eh bien, ce n'est pas la vie. J'ai besoin d'autre chose. Alors, viens, Seigneur Jésus, remplis-moi de toi, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de foi, remplis-moi de cette confiance et de cette espérance. Parce que je sais qu'à ce moment-là, toi avec moi avec toi, eh bien, on peut aller jusqu'au bout. Et y a-t-il un bout à tout cela? Hein? Il y a une autre perspective. Alors que le Seigneur vous aide, pour ceux et celles qui n'ont pas fait le pas, sachez que la véritable réalité de la vie sur la terre, c'est Jésus. Ça porte un nom, c'est Jésus-Christ. Et puis pour ceux qui marchent avec le Seigneur, continuent à marcher. Je voudrais vous encourager à dire, eh bien voilà, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, comme nous le chantons quelquefois, oh Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes, j'ai besoin que tu remplisses mon cœur et ma vie. Alors oui, sans toi, eh bien, je ne peux rien faire. Que le Seigneur nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous remplisse de son esprit et de sa parole. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous vivons dans un monde qui, quelque part, nous trompe avec des plus et des moins, en nous faisant croire que, eh bien, sans Jésus, nous pouvons être heureux. Et que finalement, eh bien, avec Jésus, nous allons être prisonniers, nous allons être malheureux, nous allons être privés de ceci et cela. Alors que nous nous apercevons, Seigneur, par l'expérience de la vie chrétienne, de notre engagement avec toi, que parce que tu nous as choisis et que nous avons répondu à ton choix en te donnant notre vie, eh bien, Seigneur, le véritable calcul, en tous les cas, le véritable résultat, c'est que nous avons toujours plus et toujours davantage. Par ta grâce. Seigneur, le monde, eh bien, nous illusionne en nous faisant croire que, en ajoutant ceci ou cela à ceci et cela, nous serons enrichis. Et qu'ainsi, Seigneur, peut-être d'une autre manière, dans un langage contraire, si nous nous débarrassons de ceci ou cela, si nous faisons sans, eh bien, nous serons plus heureux. Mais Seigneur, nous nous apercevons que toutes ces choses, ce sont des choses qui passent. Ce sont des choses qui lassent. Ce sont des choses qui quelque part, Père éternel, n'aboutit à rien, sinon qu'à une satisfaction immédiate, sans aucun prolongement. Toi, tu nous as parlé de la vie éternelle. Et la vie éternelle, comme cette prière de la Bible, eh bien, Seigneur, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Eh bien, Seigneur, avec toi, Seigneur, nous pouvons connaître cette dimension d'amour, de paix, de joie, et de vie intense, qui ne s'arrêtera pas lorsque nous quitterons cette dimension, mais qui prendra toute son envergure, eh bien, lorsque nous arriverons, Seigneur, dans ce royaume qui nous a été promis. Merci, Seigneur, nous y croyons de tout notre cœur. Merci de nous avoir rappelé cette parole essentielle où tu as dit à tous les hommes d'hier et d'aujourd'hui, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors nous te disons, Seigneur, tu nous es indispensable. Nous voulons tout simplement te dire que tu es notre vie. Tu es ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.